Alors que Héro a été en guerre pendant 29 ans pour rien, eh bien le monde dans lequel nous vivons est en guerre depuis 2000 ans contre des ennemis qui ont été vaincus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas à la bonne nouvelle que nous a apportée Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se produire avec la venue de Jésus. Car Dieu vient en personne pour nous délivrer de nos ennemis, nous apporter la victoire, instaurer son règne sur la terre. Alors allons-nous croire ou continuer le combat ? Alors par définition, une bonne nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Ce sera mon premier point ce matin. C'est aussi quelque chose de bon. C'est aussi quelque chose que l'on reçoit et quelque chose que l'on partage. Donc vous avez ici le plan pour ce message de ce matin. Alors commençons tout de suite avec quelque chose de nouveau. Jean-Baptiste avait annoncé au verset 7, si vous reprenez vos Bibles, Marc 1, verset 7. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Dans notre passage, justement, nous sommes après Jean. Au début du verset 14, on voit « Lorsque Jean eut été arrêté ». On entre dans quelque chose de nouveau avec la venue de Jésus. D'ailleurs, Jésus fera plus tard une éloge magnifique de Jean-Baptiste, que l'on peut lire en Matthieu chapitre 11. Mais je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai juste retenu un verset, le verset de Matthieu, chapitre 11, verset 11, que j'ai mis, voilà. « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Ça, c'est Jésus qui parle à propos de Jean. C'est quelque chose, c'est un éloge merveilleux quand même. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On voit qu'on est dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi il dit dans notre passage, au verset 15, « Le temps est accompli. » Il y a une vraie différence entre ce qu'il y avait avant Jésus et ce qu'il y a après Jésus. Alors, quelle est cette nouveauté ? Quel est ce temps qui est accompli ? Pour comprendre ce qui est nouveau, il faut déjà comprendre, avoir une idée de ce qui est ancien. Les gens à qui s'adresse Jésus sont des Israélites qui croient en Dieu. Tout ce en quoi ils croient est écrit dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça a été écrit avant la venue de Jésus. Donc on va lire quelques versets de cet Ancien Testament pour comprendre d'où on part. On va voir déjà que ces Israélites croient déjà en un Dieu qui est roi de toutes choses. On le voit par exemple dans les psaumes. Les psaumes, c'est comme un livre de poèmes qui nous parle de Dieu, qui a été écrit avant la venue de Jésus. Alors je vous invite à chercher psaume 103, verset 19. Où nous lisons « Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. » Il est le roi, le maître de l'univers entier. On peut lire aussi en psaume 145, verset 13. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Les Israélites croient donc vraiment en un Dieu qui est au-dessus de tout, qui règne sur tout l'univers. Un Dieu qui sait tout, qui est partout, qui voit tout, qui a tout créé. Un roi souverain de toutes choses au-dessus du monde. Mais les Israélites sont dans l'attente de quelque chose d'autre. Parce que l'Ancien Testament contient aussi des livres qui sont des prophéties et qui nous disent ce que va faire Dieu. Et on a par exemple un prophète qui s'appelle Zacharie qui a dit ceci en Zacharie 14, verset 9. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu, et on le priera, lui seul. Une autre prophétie, en Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, ou 2 à 7 selon les versions. Merci. Ésaïe, chapitre 9, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car ce joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Les Israélites attendent donc un jour où non seulement Dieu sera le roi souverain de toutes choses au-dessus du monde, mais aussi où il viendrait personnellement sauver son peuple, qui vit dans les ténèbres, qui vit dans la misère. Le jour où il viendrait comme un grand libérateur, anéantir tous les ennemis de son peuple, pour établir un royaume de justice et de paix. C'est un jour où Dieu n'aura plus aucun concurrent, mais il exercera sa royauté sur la terre. Est-ce que vous voyez cette nouveauté ? Alors on peut rapprocher de cette idée de ce qui se passe dans une des scènes du film The Truman Show. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Voici Truman. Truman, c'est le héros d'un jeu de télé-réalité. Mais en fait, il est le seul à ne pas le savoir. Depuis sa naissance, tous ses faits et gestes sont retransmis à la télévision. Et il vit dans une petite ville fictive où toutes les personnes qu'il croise sont en fait des acteurs. Et au-dessus de tout ça, il y a un maître du jeu. Alors, on ne voit pas très bien sur la photo de gauche, mais ce maître du jeu, il a l'œil sur toute la ville. Et il est au contrôle de tout. Tout ce qui arrive dans la vie de Truman est entre ses mains. Un jour, Truman décide d'aller faire du bateau sur ce qu'il croit être la mer. En fait, c'est juste un lac artificiel géant, toujours sous le contrôle du maître du jeu. Le maître envoie sur lui une tempête féroce. Peut-être on peut éteindre un peu. Bon, je ne sais pas si on voit beaucoup mieux. Il y a une grosse tempête qui arrive sur le bateau de Truman. Et il se débat avec son bateau à voile. Il est en train de perdre le combat. Et là, tout le monde est devant son écran. Et tout le monde sait parfaitement que le maître du jeu est au contrôle. Il est au-dessus de tout ça. Mais ce qu'ils attendent, c'est qu'il agisse concrètement. C'est qu'il vienne sauver son protégé auquel il tient. Ils attendent le moment où il va intervenir pour sauver Truman. Les Israélites sont dans la même attente. Ils ont un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Ils attendent le moment où il va intervenir pour venir les sauver. Et qu'est-ce que leur annonce Jésus dans notre passage ? Le temps est accompli. Votre attente est terminée. Verset 15. Le règne de Dieu est proche. Ça y est, Dieu vient régner dans le monde. Il vient exercer sa royauté, sauver son peuple, le libérer de ses ennemis, établir la justice et la paix, et cela de manière visible pour tout homme. Alors j'en arrive à ma seconde partie. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai pas vraiment l'impression que Jésus ait dit vrai aux Israélites. 2000 ans après, ils sont encore en guerre, constamment. Et puis moi aussi, je ne suis pas israélite. En quoi ça me concerne ? En quoi la nouvelle que nous apporte Jésus est une bonne nouvelle ? En fait, cette nouvelle paraît un peu insignifiante. Elle ressemble un peu à ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne le voyez pas parce que c'est insignifiant. C'est tout petit. Mais figurez-vous que vous avez tous été en contact avec ceci aujourd'hui. J'en avais mis quelques-unes devant l'entrée de l'église, par terre. Vous êtes tous passés par là. Peut-être certains les ont vus, les ont pris pour des petits cailloux, et n'y ont pas fait attention. Certains n'ont sûrement juste pas remarqué leur présence. Ils les ont piétinés, sans s'en rendre compte. Pourtant, regardez ce que ces petites graines insignifiantes contiennent. Ces petites graines que vous n'avez même pas remarquées, ce sont des graines de moutarde. Et Jésus compare le règne de Dieu à ces petites graines, en Marc 4, verset 30. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Si nous n'avons pas l'impression que Jésus ait dit vrai et que quelque chose ait changé depuis sa venue, c'est parce que le royaume de Dieu est comme cette graine de moutarde. On peut passer à côté, sans même s'en rendre compte. Il semble insignifiant. D'ailleurs, les Israélites étaient eux-mêmes dans le doute. Certains sont allés voir Jésus en lui demandant « Mais quand arrivera le royaume de Dieu ?» Et on voit sa réponse en Luc 17, verset 20, que je vous lis. « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Ainsi, nous voyons que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, ne vient pas de manière politique ou par une victoire militaire visible. Le règne de Dieu que nous annonce Jésus, c'est lui-même qui est au milieu du peuple. Dieu ne vient pas établir son royaume par la violence, par la conquête. Dieu vient établir son royaume dans la vie de chaque homme et chaque femme en envoyant Jésus. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui apporte la paix, le bonheur, le salut, car il vient rétablir la connexion entre les hommes et Dieu. Nous lisons en Romains 3, versets 22 à 26. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime, destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Dans ce passage, il est vraiment très clair que la bonne nouvelle concerne tout homme et toute femme. Nous voyons aussi que l'ennemi dont on est délivré, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un autre peuple, mais c'est le plus grand ennemi de l'homme, le péché, qui conduit à la mort. Pourquoi je dis que c'est le plus grand ennemi de l'homme ? Parce que c'est lui qui nous sépare de Dieu, de la paix, de la joie en Dieu. Selon ce qui est écrit en Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. Jésus vient mourir à notre place pour que nous puissions être pardonnés de ses fautes, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il apporte donc bien avec lui la justice, puisque nous sommes justifiés devant Dieu. Il apporte avec lui la paix, car nous sommes réconciliés avec Dieu. Il apporte avec lui la joie, car nous savons que nous sommes délivrés, que nous n'avons plus à avoir peur de la mort ou de ce qu'il y a après. Tout cela, c'est vraiment une très bonne nouvelle, que l'on peut résumer en ces trois mots que Jésus nous dit. Notre Dieu règne. Notre Dieu vient régner par Jésus-Christ dans le monde. Mais ce règne de Dieu, il est pour l'instant encore à l'état de cette petite graine insignifiante que je vous ai montrée, sans vie. La seule façon pour qu'il prenne forme et devienne ces belles plantes que nous avons vues, c'est qu'il prenne racine en nous. C'est pourquoi Jésus ne se contente pas de dire dans notre passage « Bonne nouvelle, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche », mais il continue par ces mots « Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Pour recevoir cette bonne nouvelle que nous apporte Jésus, pour en être au bénéfice, il faut nécessairement qu'il y ait un changement et qu'il y ait en nous la foi. Le changement est ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas devenir parfait et ne plus faire de bêtises du jour au lendemain, mais c'est de reconnaître nos fautes et notre incapacité à ne pas commettre de fautes. Un exemple de repentance est celui de Pierre, en Luc 5, verset 8. Suite à un miracle de Jésus, nous lisons « En voyant cela, Simon Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » La repentance, c'est donc reconnaître notre faute devant Dieu et notre besoin de son pardon, de son salut. Mais cette repentance n'est pas suffisante pour être au bénéfice de la bonne nouvelle. Beaucoup demandent pardon à Dieu et ont un cœur repentant, mais ils ne croient pas dans le fait que Dieu leur pardonne leurs fautes. Dieu leur pardonne toutes leurs fautes s'ils croient au sacrifice de Jésus. Il ne suffit pas de l'entendre ou de le savoir intellectuellement, il faut le croire. Notre Dieu est là dans la personne de Jésus, il règne. Et parce qu'il a donné sa vie pour moi, je n'ai plus d'ennemis, mes fautes sont effacées. Je suis réconcilié avec Dieu. Je n'ai rien à plus, rien à faire de plus. Il m'a délivré. Si vous n'avez pas encore vécu cette délivrance, si Dieu ne règne pas encore en vous, ce sont les deux choses auxquelles Dieu vous appelle ce matin. Changez et croyez. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous ne demande rien de plus que cela. Quel que soit notre passé, notre situation actuelle, les erreurs que nous avons pu faire, nos défauts, nous pouvons être sauvés. Mais enfin, La bonne nouvelle, une fois qu'on l'a reçue, qu'elle a pris racine en nous, qu'elle devient une plante qui commence à grandir, eh bien, c'est aussi quelque chose que l'on partage. Alors, est-ce que tu peux juste revenir en arrière ? Merci. Une bonne nouvelle, par définition, ça se partage. Imaginez, vous avez 18 ans, vous êtes face à votre lycée, devant le panneau où il y a les résultats du bac. La première chose que vous faites, bien sûr, c'est de chercher votre nom. Et là, vous voyez que vous l'avez. Donc, vous êtes super content. Et puis, vous voyez juste au-dessus le nom d'un très bon ami, Louis, par exemple, qui l'a eu lui aussi. Par contre, juste en dessous de votre prénom, il y a un autre ami à vous. On va dire Denis. Denis est recalé. Dommage. Les deux ne sont pas encore arrivés. Ils sont pris dans les embouteillages. Alors je vous pose une question. Lequel allez-vous appeler pour lui donner son résultat ? Une bonne nouvelle, on souhaite la partager. Surtout quand la nouvelle est bonne pour l'autre également. Parce qu'on souhaite se réjouir ensemble. En Ésaïe 52, verset 7, nous lisons « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Poussez des cris de joie ensemble, faites éclater votre allégresse, vos ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. » Alors, en introduction de ce message, je vous avais dit que le monde est en guerre depuis 2000 ans contre des ennemis qui ont été vaincus parce qu'ils ne croient pas à la bonne nouvelle qu'apporte Jésus. Si vous rencontriez quelqu'un qui est persuadé que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, vous feriez tout pour l'en convaincre, pour éviter qu'il ne lui arrive un drame. Il est de notre responsabilité, à nous qui croyons, d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait tous ceux qui ont cru. Prenons l'exemple de Paul. En 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Paul nous dit, « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Si nous n'attirons pas le regard des gens sur le fait que notre Dieu est réel et qu'il règne, et qu'il sauve, qu'il délivre, ils passeront à côté, sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se partage. Alors en conclusion, j'aimerais que vous vous posiez réellement la question ce matin. Est-ce que Dieu règne dans ma vie ? Est-ce que je crois en Jésus ? Est-ce que je crois qu'il est venu il y a 2000 ans pour sauver les hommes ? Pour mourir à leur place ? Pour mourir à ma place ? Est-ce que je veux prendre la décision de changer et de croire comme nous demande Jésus dans ce passage ? Ou est-ce que je suis prêt à passer à côté d'une si bonne nouvelle ? Si vous avez ce désir de laisser Dieu régner dans votre vie, il n'y a qu'un seul moyen. C'est par Jésus, celui qu'il a envoyé pour nous sauver, que Dieu a envoyé pour nous sauver. Si vous croyez cela, je vous invite à vous associer à la prière que je vais faire pour conclure ce message. Seigneur Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta grâce, ton amour envers nous et pour le fait que tu as envoyé un sauveur pour nous nettoyer de notre péché, de nos fautes, pour rétablir la connexion entre toi, Seigneur Dieu, et nous. Et Seigneur, ce matin, nous croyons cela. Nous croyons que ton sacrifice est ce dont nous avons besoin pour être réconciliés avec toi. Nous croyons que nous n'avons besoin de rien d'autre et que par la foi en toi, Seigneur Jésus, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes victorieux. Viens régner dans nos vies, Seigneur Jésus, et dans la vie de chacun présent ici. Et merci encore pour cet immense amour, cet immense pardon que tu nous offres. Amen.